France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Un nouveau champ d'études émerge. Après la bio-inspiration, voici la paléo-bio-inspiration. Comment les espèces éteintes et le lointain passé du vivant peuvent-ils nourrir l'ingénierie d'aujourd'hui et de demain ? S'inspirer de la nature pour innover, de l'histoire de l'aviation à la construction de la tour Eiffel, inspiré de la solidité du fémur humain, le succès du biomimétisme n'est plus à démontrer. Si on considère que depuis l'apparition de la vie sur Terre, 99,9% des espèces se sont éteintes, se tourner vers les fossiles, c'est donc puiser dans un immense répertoire de formes et de possibles. Cette nouvelle approche ouvre des perspectives dans des domaines aussi variés que l'aéronautique ou la médecine. Mais elle témoigne aussi d'un renouvellement de regard. Les fossiles ne sont plus vus comme les perdants de l'évolution, mais comme des catalyseurs d'invention. Paléo-bio-inspiration, l'innovation, c'est fossile. Alexandra Houssaï, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche CNRS dans l'unité MECADEV au MNHN. Guillaume Lecointre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes systématicien professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez aussi suivre cette émission tout en nous suivant sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesCQFD. Alors pourquoi s'inspirer d'animaux qui ont disparu? Quels sont les concepts clés au cœur de ce nouveau champ d'études? Et quels sont les domaines d'application concernés? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais déjà, avant toute chose, Guillaume Lecointre, qu'est-ce que la bio-inspiration, aussi appelée biomimétisme?
Les êtres vivants se sont déployés dans un monde physique, les êtres vivants d'aujourd'hui, mais ceux du passé aussi, dans un monde physique et chimique, qui est fort semblable au nôtre. Et lorsque nous voulons, lorsque nous sommes à la recherche de nouvelles dispositions pour réaliser un objet pour qu'il soit utile, ou pour réaliser une œuvre d'art, en sculpture par exemple, ou pour conceptualiser la forme que doit avoir un objet pour qu'il soit à la fois utile et à la fois beau à regarder, on peut s'inspirer non seulement de l'esthétique de la nature, mais on peut s'inspirer surtout scientifiquement des raisons physiques et chimiques pour lesquelles les êtres vivants manifestent les efficacités qu'ils manifestent. Et donc, si on est capable de décrypter ces conditions physiques et chimiques et... On va en reparler aussi, les conditions d'évolution des êtres vivants qui ont précédé ce qu'on voit aujourd'hui. Eh bien, on est capable peut-être de... On se retrouve capable d'appliquer ces conditions physiques et chimiques à des objets d'aujourd'hui qui vont nous servir. Je vais demander tout de suite à Alexandra si elle a un complément de définition à donner, parce que elle au moins, elle en fait vraiment.
Mais c'est vrai qu'Alexandra Houssaï, vous avez les mains, en effet, dans ce projet. Ce que vous venez de dire, ça me fait penser aussi au terme d'Aristote, l'art imite la nature. Alexandra Houssaï, du côté, en effet, du MNHN, on a la création du projet BioInspire en 2019, qui est également en collaboration avec le ministère de la Transition énergétique. On voit que c'est un domaine d'études assez vivace.
Oui, c'est un domaine qui se développe pas mal. Et en fait, pendant longtemps, on a regardé... Bon, de toute façon, on a une vision relative à la nature qui est toujours assez surprenante, en se situant soit en dehors, soit en la regardant parce qu'elle est jolie, etc. Mais pas toujours en la regardant parce qu'elle est utile, alors que bon, d'un point de vue médical, ça, on le sait depuis longtemps, on l'utilise quotidiennement. Mais pour plein de choses, en fait, on peut s'inspirer de la nature, et pendant longtemps, on l'a fait quand même. Et puis, dans notre société moderne, on a tendance à avoir recours, par exemple, beaucoup plus à l'intelligence artificielle qu'à la nature. Et finalement, moi, j'ai commencé à tremper les pieds dans la bio-inspiration, notamment parce que j'avais vu des études qui avaient... Enfin, je suis spécialiste du tissu osseux et de l'adaptation du squelette. Et j'avais vu des études qui commençaient à faire une inspiration vraiment très, très approximative à partir d'ossements. Et qui obtenait des meilleurs résultats qu'avec une optimisation topologique, c'est-à-dire l'utilisation, en gros, de l'intelligence artificielle qui disait « Ok, donnez-moi la meilleure structure pour répondre aux contraintes que je vais appliquer là ». Donc ça montrait que même en s'en inspirant d'une façon assez préliminaire, il y avait de bons résultats. Et en fait, c'est assez intéressant puisque l'intelligence artificielle, elle tourne avec ce qu'on connaît déjà. Et en fait, aller vers la nature, ça nous offre un nouveau champ des possibles qu'on n'a pas l'habitude de traiter et en fait, qui est porteur d'énormément de solutions.
Finalement, donc, toujours en préambule, Alexandra Houssaï, le paléo-biomimétisme, c'est donc du biomimétisme étendu à toute l'histoire de la vie.
Oui, parce que la diversité actuelle, bon, même si elle est en danger, elle est quand même assez riche encore pour l'instant. mais elle n'est pas grand-chose à la lumière de la diversité qu'il y a eu dans le registre fossile. Donc on a eu des successions et des successions de faune et flore. Et en fait, quand on plonge dans le registre fossile, on a pléthore de formes très différentes des formes actuelles. On a des formes qui ont vécu dans des conditions climatiques qui étaient différentes, dans des conditions de pression différentes. On a des formes aussi qui ont pu se permettre des extrêmes. On a des extrêmes de taille qui sont complètement incroyables. On a plein de formes qui ont des morphologies auxquelles on ne s'attendrait pas du tout et des morphologies qu'on n'aurait pas cru possibles. Et en fait, d'aller plonger dans ce registre fossile, ça nous permet véritablement d'augmenter notre source d'inspiration de façon exponentielle. Par contre, pendant longtemps, on ne l'a pas regardé, je pense, et c'est pour ça que la paléobio-inspiration est juste à un stade de balbutiement et n'est pas encore très amorcée. C'est parce qu'il y a cette idée qui est très ancrée dans l'esprit humain que un fossile, une espèce éteinte, si elle s'est éteinte, c'est qu'elle n'avait rien à faire là et qu'elle n'était pas assez adaptée pour survivre. Donc, il y a cette idée que seuls les meilleurs survivent aujourd'hui et donc autant s'inspirer des meilleurs. Alors qu'en fait, il y a des pléthores d'espèces dans le registre fossile qui ont vécu pendant très longtemps, des centaines de milliers d'années, certaines plusieurs millions d'années, donc vraiment très très longtemps, plus longtemps que nous, et qui étaient très bien adaptées à un instant T. Il ne faut vraiment pas oublier que l'évolution, c'est relatif et qu'on est adapté à son environnement à un instant T, que l'environnement est changeant, soit parce qu'on va avoir des conditions climatiques différentes, mais on peut aussi avoir un prédateur différent, un compétiteur différent, etc. Donc on a plein de choses qui changent dans notre milieu. On peut avoir notre source de nourriture qui disparaît ou pas. Donc, on a une adaptation qui est relative et on peut être très, très bien adapté à un moment pendant longtemps avant de s'éteindre.
Voilà, on reviendra sur les fondements historiques de ces idées reçues que vous venez d'évoquer. Mais Guillaume Lecointre, en effet, l'apparition de la vie il y a 3,8, 3,9 milliards d'années, le vivant, depuis ce moment-là, n'a jamais cessé d'être en évolution.
Oui, il a toujours été en évolution. Et j'ai envie de dire, au moment où on considère une forme vivante, dans son temps, dans le temps où elle a vécu, elle était gagnante. J'ai envie de reprendre ce qu'a dit Alexandra il y a un instant. La paléo-bio-inspiration fait un pari, c'est tous gagnants en fait. Tous gagnants, c'est qu'à un moment où ils vivaient, ils étaient, leur constitution était conforme à leurs conditions de survie. Avec un pari que la paléo-bio-inspiration va faire, c'est qu'elle va quand même parier qu'il y a un certain nombre de paramètres du monde physique et chimique qui prévalent aujourd'hui, mais qui prévalaient aussi dans le passé. Alors ça, c'est à manipuler avec prudence. Il y a un principe qu'on appelle le principe d'actualisme qui consiste à dire, en gros, l'attraction terrestre, c'était la même, à peu de choses près, c'était la même il y a 200 millions d'années que ce qu'elle est aujourd'hui.
Les lois de la physique sont les mêmes.
Voilà, exactement. Les lois de la physique et de la chimie sont les mêmes. Un acide dissoudra toujours des carbonates de calcium. Il y a des lois de la physique et de la chimie qui s'appliquaient dans le passé et qui permettent justement de penser les conditions d'efficacité des êtres vivants du passé dans le milieu où ils étaient à l'époque. Mais ceci avec quelques petites limites. Et les petites limites, elles arrivent assez vite. Par exemple, le taux de dioxygène dans l'atmosphère n'a pas toujours été celui que nous trouvons aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à 20%. Il fut des époques où il était quasiment à 30, hein, il y a 300 millions d'années. Et donc, c'est un jeu que je trouve passionnant, la paléobio-inspiration, parce qu'il va falloir prendre en compte ceux des paramètres physiques et chimiques qu'on n'a pas changé, bien sûr, pour pouvoir interpréter l'efficacité du vivant qu'on ne voit qu'à l'état fossile. Mais il y a d'autres paramètres auxquels il faut s'attendre à trouver quelques petites déviations. Et c'est ça qui est marrant.
Ouais. En tout cas, ce principe d'actualisme montre bien qu'on peut s'inspirer toujours de ces organismes, que c'est toujours d'actualité. Et un grand gagnant du biomimétisme, l'un des plus beaux succès de ce champ d'études, on peut citer le Velcro.
Près de 15 ans plus tard, le monde apprenait un mot nouveau, Velcro, la fermeture magique. Georges de Métral avait eu sa bardane, comme Newton sa pomme. Il avait mis le temps qu'il fallait, mais il y était arrivé. Chacun sait que la Suisse fabrique du chocolat, des Zwiebacks, des montres, que les banques y sont prospères. De là à passer à une invention magique encouragée par un mécène, comme au temps de la Renaissance, cela était nouveau, voire surprenant. Une fermeture magique dont tous les journaux du monde ont parlé, même la Pravda. Une fermeture qui se pose et s'enlève comme une peau de banane. Mais pour coller quoi? Tout ce qui peut sur Terre s'accoler, hormis les humains toutefois. Ce n'était pas si mal que ça. Cette fermeture, notre chasseur Georges de Métral a passé près de 15 ans à la mettre au point. Nous vous avons dit qu'il était obstiné. Partir à la chasse et en ramener une fermeture, ça n'arrive pas tous les jours. C'est bien là une histoire extraordinaire.
Oui, en 1941, lors d'une partie de chasse, je me suis aperçu que les petites bardanes ou glettes crochaient terriblement fort sur les vêtements et dans les oreilles du chien.
Ce sont des chardons, n'est-ce pas ?
Ce sont de petits chardons. Ce pouvoir d'accrochage des chardons, je l'ai mis dans ma cervelle de côté en attendant de pouvoir en faire une utilisation pratique. Pendant une dizaine d'années, cette idée a sommeillé jusqu'au jour où j'ai pu l'associer avec l'idée d'une fermeture.
Un documentaire de la RTS, la radio-télévision suisse, diffusé en 1961. Alors ça, c'est un bel exemple du biomimétisme du côté de la science des matériaux. Alexandra Houssey, quels sont les autres grands succès du biomimétisme ?
Oula, il y en a pas mal. Il y a des inspirations du Martin Pêcheur pour sa pénétration efficace dans l'eau qui ont pu inspirer le Shinkansen, donc le train rapide au Japon. Là, tout de suite, dans ma tête, là, j'en ai pas plein, mais...
Je voulais pas vous poser une colle ou Guillaume Lecointre.
Mais il y en a plein. Mais de toute façon, tout à l'heure, vous avez évoqué la Tour Eiffel, par exemple, parce que, pardon, oui. Je reviens là-dessus, mais comme je suis spécialiste d'os, ça m'aide. Mais effectivement, le fémur, donc l'os de la cuisse, quand il s'articule avec la hanche, là, on a vraiment une structure où il y a plein de travées osseuses qui sont orientées selon les directions des contraintes principales qu'il va y avoir. Et ça, ça a vraiment servi pour faire toute la structure de la Tour Eiffel. Donc moi, j'aime bien cet exemple-là, puisqu'on a toujours, on voit la Tour Eiffel, on l'imagine toujours un peu, bon, bah, c'est début du 20e, donc on l'imagine ancienne, tout ça. Et puis finalement, c'est un procédé de bio-inspiration déjà qui est très avancé.
Et dans l'art regorge de bio-inspiration, si je m'aventurais du côté de l'art, c'est ce qu'on appelle l'art nouveau. À la charnière 19e, 20e siècle, les courbes qui étaient utilisées pour décorer les objets jusqu'aux objets les plus familiers de la vie de tous les jours, des couverts pour le dîner, des poignées de porte, des courbures de fenêtres, eh bien les paramètres de la courbure du matériau qu'on incorporait pour décorer ces objets étaient tirés directement des courbures trouvées chez les plantes. Et c'était assez bien calculé. Il fallait vraiment que l'objet ressemble à quelque chose venant de la nature.
Et en effet, on le voit aussi sur le mobilier urbain de Guimard, qui est très inspiré, oui. Et très précisément documenté dans Le Monde et le catalogue de formes végétales. On peut aussi évidemment citer Léonard de Vinci, comme le père spirituel de la bio-inspiration, qui a observé les oiseaux pour dessiner ses machines volantes. Enfin bref, dans l'histoire de l'aviation, il y a un très grand nombre d'exemples. Ce principe de biomimétisme, avant d'arriver au paléo, au biomimétisme, c'est aussi quelque chose qui a été défendu par une autrice, Janine Binus, qui est écrivaine, activiste, écologiste, et qui a publié en 97 Biomimicrie. Alors, elle écrit, je la cite, « Après 3,8 milliards d'années de recherche et de développement, les échecs sont devenus les fossiles. Et ce qui nous entoure est le secret de la survie. » Alors ça, Guillaume Lecointre, j'imagine que ça doit vous faire réagir.
Ben oui, le livre de Janine Binus a été utile en son temps, mais au temps d'aujourd'hui, il est améliorable. C'est-à-dire que, d'abord, elle offre une vision de la nature selon laquelle, qui correspond assez bien à une intuition qui est très répandue, selon laquelle la nature est bien faite. Et ça nous empêche de penser que la nature, elle n'est pas le résultat d'un perfectionnement, mais de compromis permanent, et que ce que nous prenons pour très performant, très optimal, en réalité, cas un cas, les choses se sont maintenues comme elles ont pu. Et moi, je préfère, en tout cas, dans l'état de la science d'aujourd'hui, je préfère considérer les formes vivantes comme le fruit de compromis, plutôt que comme le fruit de perfection. Alors il y a cette idée chez Binus que le passé est rempli d'échecs et que les formes d'aujourd'hui sont les plus efficaces. Les fossiles comme forme obsolète, là franchement, il faut chasser cette idée de notre tête. Elle provient d'une vision d'un déroulement historique de l'histoire du vivant dans lequel finalement nous sommes les héros, nous sommes les aboutissements, les formes qui sont les plus proches des nôtres sont les plus parfaites, etc. Et il faudrait remplacer cette vision téléologique, c'est-à-dire quasiment portée vers un but, par une autre vision, qui est la vision du buissonnement, où tout être vivant, finalement, a suivi une trajectoire historique qui lui est propre. Certes, en empruntant des chemins initiaux, des souches communes entre eux, bien sûr, ça n'empêche pas l'arbre généalogique du vivant, mais dans cet arbre généalogique du vivant qui se déploie sur... quasiment 3 milliards d'années, on a des branches parallèles qui se déploient et chacun a été gagnant dans sa branche, si je peux le dire comme ça. Avec des compromis, bien sûr, hein, mais voilà.
Votre objectif, on va le voir, c'est que cette bio-inspiration soit vraiment inspirée et rigoureuse du point de vue évolutionniste. Alors, qu'est-ce qu'une paléo-bio-inspiration rigoureuse ? Restez à l'écoute, on y arrive.
Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Comment les paléontologues mobilisent-ils les fossiles pour penser l'innovation technologique ? C'est la question que l'on se pose tout au long de cette heure en direct sur France Culture avec Alexandra Houssaï et Guillaume Lecointre. On l'a pas dit, l'universitaire américain Otto Schmidt a forgé le néologisme anglais biomimetics en 1969 pour décrire la notion de transfert de processus de la biologie à la technologie. La paléo-bio-inspiration, c'est donc le biomimétisme étendu à toute l'histoire de la vie. Ce nouveau concept, Alexandra Houssaï, comment est-il né ? Il me semble que le MNHN est assez pionnier en la matière.
Oui, parce que pour le coup, dans le registre fossile, là, ce qu'on regardait beaucoup, c'était les relations entre la forme et la fonction. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les organismes sont faits comme ils sont faits. En gros, quand on regarde un élément du squelette, à quoi ça sert ? Donc, nous, paléontologues, on a des os, et donc on regarde le squelette, grosso modo, on a des dents aussi. On a quelques autres éléments, mais grosso modo, c'était essayer de comprendre à quoi ça sert. Et donc, on voulait tester ces relations, et on se disait, en fait, ce moteur de à quoi ça sert, on se l'est toujours dit pendant très longtemps, en se disant à quoi ça servait aux organismes, et on réfléchissait à organisme-organisme. Et puis on peut aussi se dire en fait à quoi ça sert et à quoi ça pourrait servir dans nos sociétés à nous. Et c'est ce pas-là en fait qui nous emmène vers la paléo-bio-inspiration, c'est de voir au-delà de juste nos organismes, comment est-ce qu'on peut extraire cette relation entre la forme et la fonction pour que ça puisse être utile à des applications dans le quotidien. Et le problème là, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire ça. Parce que il y a plein de gens qui vont se dire c'est bon, je connais les animaux, donc moi je vois cet animal là, il fait telle fonction, donc c'est super, je vais m'inspirer de lui et puis voilà. Sauf qu'en fait OK, il fait telle fonction mais il fait peut-être telle autre fonction et telle autre fonction et telle autre fonction aussi, donc et puis, il y a plein d'autres animaux que les personnes ne connaissent pas. Donc, en fait, si on s'inspire, si on essaye de s'inspirer du vivant ou du vivant mort, dans le registre, si on va dans le registre fossile, mais qu'on ne le connaît pas bien, qu'on ne le maîtrise pas, en fait, on peut faire une paléo-bio-inspiration assez mauvaise. Il y avait un collègue, justement, qui travaillait en sciences des matériaux, qui faisait la comparaison à se dire, c'est comme quand on arrive dans une énorme bibliothèque avec plein de bouquins et qu'on se dit, je vais trouver le bon livre. Il y a un moment, il faut être aidé et accompagné. Et pourquoi il y a ce besoin de comprendre le vivant ? C'est que, par exemple, moi, je prends souvent cet exemple-là, si je prends le membre antérieur, donc le bras d'un chat, d'un puma, ça va lui servir à courir, ça va lui servir à sauter, donc à s'élancer, mais aussi à se réceptionner, ça va lui servir à grimper, ça va lui servir à attraper une proie. Donc en fait, ça sert à plein de choses. Donc si je pense à son bras simplement pour courir, mais il y a plein d'autres fonctions aussi. Ce qui fait qu'en fait, son anatomie, comme disait tout à l'heure Guillaume, le mot-clé, c'est vraiment compromis. Son anatomie, c'est un compromis pour répondre à plein de fonctions en particulier. Et donc, nous, ce qu'on fait au laboratoire, par exemple, comme je suis spécialiste en morphologie fonctionnelle, donc vraiment essayer de comprendre les relations entre la forme et la fonction, c'est déjà d'essayer de trier tout ce qu'il y a entre toutes ces fonctions, parce qu'en biologie, il y a plein de fonctions mélangées. Donc, on doit essayer d'isoler une seule fonction. Et puis après, il y a une autre chose qui est super importante, c'est qu'il y a d'autres contraintes, en fait, que juste les contraintes qu'on appelle fonctionnelles, qui sont vraiment à quoi ça sert. Il va y avoir l'héritage, ce que disait Guillaume sur les relations de parenté qu'il peut y avoir entre les organismes, qui vont faire que face à la même contrainte, comme par exemple le vol, je ne vais pas pouvoir y répondre de la même façon si je suis un mammifère ou si je suis un reptile. En fait, grosso modo, les organismes vont pas même avoir la même boîte à outils à partir de laquelle innover, créer quelque chose. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Si je ne prends pas en compte l'histoire évolutive des organismes, là aussi, ça va pas être une bio-inspiration correcte. On a d'autres contraintes, des contraintes de développement, etc., qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est pour ça que cette bio-inspiration, elle doit vraiment être faite pas juste à l'aveugle, comme ça, en se disant... je vais aller regarder des animaux parce qu'ils ont l'air de faire correctement la fonction qui m'intéresse, mais il faut vraiment être accompagné pour faire une recherche précise et carrée en biologie évolutive.
Oui, c'est qu'on peut regarder la biodiversité passée comme une base de données, mais il faut faire attention et savoir quelle information prendre. Et en ça, la paléontologie est un guide, Guillaume Lecointre.
Oui, si on s'est débarrassé au préalable, tout à l'heure on parlait des fossiles comme étant obsolètes, il faut aussi s'être débarrassé au préalable de cette idée que les fossiles sont des êtres primitifs. Alors ça on le dit plus trop aujourd'hui, mais pour des gens, pour des personnes d'ancienne génération, elles ont pu entendre ça dans leurs études. Par exemple, il y a l'exemple typique, l'ornithorynque est un mammifère dit primitif. Et comme il est primitif, il aurait été remplacé par quelque chose de plus évolué, puisque primitif, c'est une valeur relative. Donc s'il y a du primitif, c'est qu'il y a quelque chose de plus évolué. Et que cet ornithorynque primitif ne saurait être, en quelque sorte, quelque chose qui pourrait nous inspirer dans le monde des mammifères. Or, cette notion, elle est pernicieuse parce que, comme je le disais tout à l'heure, le déploiement du vivant, c'est pas le développement d'un programme où on va monter des marches du moins bien vers le mieux, et le primitif, ça va être le moins bien, et le mieux, ça va être nous. Non, l'ornithorynque, en fait, dans sa branche propre, il a innové, permettez-moi la métaphore, entre guillemets, il a innové un tas de trucs que d'autres mammifères n'ont pas fait, par exemple. Il a une sorte de bec à l'avant de la tête, il a des pattes palmées, il y a des éperons venimeux sur les pattes arrière des mâles, il y a une anatomie de la tempe qui est très particulière.
C'est une mosaïque.
Et voilà, exactement. C'est cette idée que je voudrais défendre, des êtres vivants comme étant des mosaïques historiques. Il y a certaines des pièces qui peuvent être qualifiées de primitives, mais ce sont des pièces seulement, comme chez l'ornithorynque, dans un cadre de mammifères, pondre des œufs, par exemple. Ça peut être considéré comme juste un trait qui est primitif. Puis d'autres traits qui vont être au contraire très dérivés sur la branche propre de l'ornithorynque. Il fait sa vie à lui, il a ses innovations à lui. Et ce qui donc nous permet de profiter d'innovations chez des êtres qui jadis, je dis bien jadis, étaient qualifiés de primitifs. Par exemple, les organes électrorécepteurs à l'avant du bec de l'ornithorynque ont des propriétés très intéressantes et on pourrait peut-être s'y intéresser. Il invente des protéines qui n'existent nulle part ailleurs. À une échelle ultra petite, microscopique, il a des repliements dans ses protéines qu'on ne connaît pas dans aucun autre organisme vivant. Et les biochimistes, depuis 2017, je crois, si je me souviens bien de la date, ont commencé à s'y intéresser. Enfin bon, je vais arrêter avec l'ornithorynque, mais voilà, il y a cette idée-là dont il faut se débarrasser. Et j'aime beaucoup le discours d'Alexandra sur le multifonction. Elle a vraiment mis en lumière cette idée de compromis. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle la fonction, ce qu'on aimerait voir réaliser dans un objet qu'on veut fabriquer, en fait. Dans le vivant, cette fonction, elle est vraiment à prendre au sérieux parce qu'elle est la condition de performance par laquelle le lignage généalogique passé des êtres que l'on considère se sont maintenus jusqu'à aujourd'hui. Pensez juste un instant, si je dis l'œil sert à voir dans le vivant, si je dis l'œil sert à voir, je dis que voir, ça a été la condition de survie, de performance, la performance réalisée par des yeux qui ont survécu. Si ces yeux du passé ont survécu jusqu'à maintenant, c'est qu'ils voyaient. Et c'est pour ça qu'on peut quand même dire que l'œil sert à voir, on peut le dire rétrospectivement. Et la preuve qu'on en a, c'est que quand on examine des faunes qui vivent dans les grottes, eh bien, comme il n'y a rien à voir dans les grottes, eh bien, les altérations, le vivant n'est jamais stable, hein, on est tout le temps altéré, d'ailleurs c'est pour ça qu'on vieillit entre nous, le vivant s'altère. Les altérations qui touchent les systèmes visuels dans les grottes, ne sont pas sanctionnés par la mort de l'individu, parce que de toute façon, voir dans une grotte où il n'y a pas de lumière n'est pas un enjeu de survie. Et donc, de proche en proche, de génération en génération, les systèmes visuels des animaux cavernicoles sont de plus en plus altérés et finissent par disparaître. Disparition chez plusieurs espèces de poissons osseux dans les grottes. Disparition des yeux, je veux dire. Disparition des yeux chez des araignées des grottes, chez les écrevisses des grottes, des crustacés des grottes. Enfin, voilà. Et donc, la fonction, c'est ce qui, quelque part, dans le passé, a été le système explicatif de la survie des organismes. Mais dans un système de compromis, ces fonctions, elles sont multiples, Alexandra l'a dit, et surtout, eh bien, on y reviendra tout à l'heure, il y a l'héritage qu'il faut prendre en compte. On va y revenir.
Et j'en profite pour glisser et prévenir nos auditeurs que, justement, mardi prochain, nous ferons une émission spéciale consacrée à l'histoire de l'œil et à son émergence et son histoire évolutive. En tout cas, ce que vous dites là, avec Guillaume Lecointre, c'est que l'un des avantages de la paléo-bio-inspiration, c'est que ça permet l'étude de trajectoires plutôt que de simples cas isolés.
Oui, tout à fait. De trajectoire.
Si on prend une aile de ptérosaure, par exemple, ou les pattes de tétrapodes.
Oui, cette notion de trajectoire, elle est intéressante parce que lorsqu'on observe une fonction réalisée dans un groupe donné d'organismes, est-ce qu'on est vraiment sûr que cette fonction a été aussi déterminante dans la survie que ça, il faut se débarrasser d'un paramètre qui est le paramètre héritage. C'est-à-dire, est-ce que la structure s'explique plus par un héritage commun, et puis cas un cas, est-ce que c'est vraiment fonctionnel? Et on a des héritages qui ne sont pas fonctionnels, ça il faut le savoir. C'est pour ça que l'héritage lui-même, il est ambigu si on le prend tout seul.
L'os pulvien des serpents, par exemple.
Oui, là, chez nous, typiquement, il y a 37 organes chez l'humain qui sont identifiés comme ne servant à rien. Alors, on ne les a pas tous, hein, rassurez-vous, il y en a 12 qu'on a tous. Et puis il y en a le reste, c'est seulement chez certains d'entre nous. Par exemple, vous avez 3 muscles du pavillon de l'oreille sur votre tempe, le muscle auriculaire supérieur, le postérieur et l'inférieur. Nous ne remuons plus depuis plus de 15 millions d'années, les primates ne remuent plus les oreilles, enfin les primates de notre lignage. On a conservé les muscles néanmoins, ça c'est ce qu'on appelle la contrainte phylogénétique, la contrainte historique dont parlait Alexandra tout à l'heure. Et cette contrainte-là, à elle toute seule, elle ne nous dit rien de la fonction, parce qu'on peut hériter de trucs qui ne marchent pas. Donc il faut se débarrasser de ce paramètre-là pour vraiment s'atteler à la fonction et donc éventuellement s'intéresser aux trajectoires, c'est-à-dire les convergences évolutives. Alors il y en a une qui est très bateau, je la rappelle très vite pour les auditeurs, mais elle est dans tous les livres. On comprend le corps fusiforme des vertébrés qui nagent dans la haute mer, ce qu'on appelle le milieu pélagique. Lorsque vous êtes un nageur rapide, prédateur rapide en haute mer, eh bien, je vous le fais court, mais si vous avez une forme de cube, ça va pas le faire. Donc, ça, c'est facile à dire parce qu'on a l'intuition. Mais cette forme fusiforme qu'on retrouve chez les dauphins, d'un côté, qui ne sont pas directement apparentés en tant qu'êtres aquatiques aux ichthyosaures. On en vient à la paléo-bioaspiration, les fameux ichthyosaures, donc reptiles marins de l'ère secondaire, qui ont cette forme fusiforme, que l'on peut comparer aussi à certaines formes de requins, qui ne sont pas non plus directement apparentées aux ichthyosaures. Là, on a trois... formes similaires, je dis bien similaires, elles n'ont pas été, ces formes-là, héritées de leur ancêtre commun, mais elles sont similaires. Et par la trajectoire historique, on peut savoir que si elles sont similaires, c'est que vraiment, les êtres vivants qui les portaient, il devait y avoir, excusez-moi du terme, mais de bonnes raisons fonctionnelles pour que ces formes réapparaissent.
C'est un autre exemple qui est bien connu, c'est la forme aérodynamique et les ailes qui sont un bon exemple d'évolution convergente qu'on retrouve chez les oiseaux, les ptérosaures et les chauves-souris. Et là, on peut voir, Alexandra Houssaye, que finalement les convergences, ça nous permet en effet de voir si un trait est avantageux.
Oui, parce que s'il est apparu plusieurs fois dans l'histoire évolutive de façon indépendante, c'est que ça a l'air plutôt pas mal. Donc là, l'exemple de Guillaume est très bon. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que on a ces similarités, mais en même temps, c'est différent. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la même boîte à outils. Et donc, nous, vraiment, on essaye de voir ça. En fait, ce qu'on cherche, quand on est chercheur en morphologie fonctionnelle, on va vraiment chercher des convergences pour mettre en évidence les relations forme-fonction. Donc, on va chercher à voir justement ces choses qu'on observe chez tout le monde, au sein de toutes les lignées, qui paraissent comme des obligations, qui seraient comme une règle biomécanique générale qu'on pourrait appliquer à tout, et justement qu'on peut utiliser ensuite pour la bioinspiration, de se dire, vraiment, c'est arrivé partout, donc ce truc-là, ça a l'air vraiment utile. Donc on peut le faire un peu plus différemment, mais vraiment, ça a l'air d'être une solution très efficace. Et puis après, on va avoir des nuances au sein de chaque lignée, on va avoir des petites différences, on va avoir... des choses qui divergent et qui vont être aussi des nuances dans la fonction. Et donc là, ça nous permet de préciser, de chercher d'autres sources, de faire des tests. Et donc, ça nous fait plein d'exemples comme ça. Donc c'est pour ça que là aussi, le registre fossile, il est intéressant, puisque, comme l'a dit Guillaume, on a ce parallèle, par exemple, sur le corps fusiforme entre les requins blancs et les dauphins, par exemple. Mais de rajouter les ichthyosaures, de rajouter d'autres formes comme ça dans le registre fossile, ça nous fait d'autres exemples.
Et autre exemple, vous avez également une étudiante qui a commencé sa thèse sur l'articulation de la cheville chez les mammifères.
J'ai plusieurs étudiants mes étudiants, pour le coup, comme ils sont vraiment sur des relations forme-fonction, on pense, en fait, à chaque fois, maintenant, il y a un petit biais dans notre groupe, où on pense forcément bio-inspiration aussi dans l'adaptation, puisque, j'ai une étudiante qui commence sur l'articulation de la cheville chez les mammifères. En fait, quand on regarde les joints dans notre société, les joints, on n'a vraiment pas pléthore de morphologie, quoi. C'est un peu toujours pareil, il y a toujours un peu les mêmes types de joints. Alors
là,
que quand on regarde dans la nature...
Je vous vois regarder nos portes.
Mais c'est toujours un peu tout toutes les articulations dans notre société, dans toutes nos constructions, elles sont pas très originales. Bon, ça marche bien, hein. Mais en fait, quand on regarde dans la nature, on a une énorme diversité de formes. En plus, moi, je travaille aussi sur la structure interne des os, donc on a aussi une diversité dans la structure à l'intérieur. Et ça va vraiment permettre des choses différentes. Donc, sur n'importe quelle articulation, ça va permettre soit de contraindre le mouvement dans une seule direction. Par exemple, si j'ai un animal qui court, un cheval, il y a intérêt à ce que sa patte, elle aille toujours dans le même sens, sinon ça va pas bien se passer. Alors que si j'ai un ours, par exemple, sa cheville, il faut vraiment qu'elle puisse avoir une possibilité d'avoir beaucoup de souplesse et d'aller dans plein de directions, puisqu'il peut même se mettre sur les deux pattes arrière, etc. Donc on va avoir des demandes qui vont être différentes. On va aussi avoir des masses du squelette à supporter qui vont être différentes. Et donc, on voit le lien entre ces différentes articulations, parce que vraiment, on a beaucoup de choses, et puis leur forme. Et en fait, là aussi, on pourrait s'en servir pour la bioinspiration.
Voilà, en tout cas, si une fonction est revenue plusieurs fois, c'est sans doute un bon signe. Alors, quelles sont les premières applications concrètes? Et qu'est-ce que cette nouvelle branche, la paléobionique? Reste à l'écoute. Gadget, back to nature, en direct sur France Culture, car nous parlons de la nature lorsqu'elle inspire les innovations, et plus exactement de la nature des temps révolus. Nous parlons de paléobiomimétisme en compagnie de nos deux invités du jour, Alexandra Houssaye, directrice de recherche CNRS dans l'unité MECADEV au MNHN, et Guillaume Lecointre, systématicien professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle. On peut regarder donc la biodiversité comme une base de données, on vient de voir que ces espèces ont vécu, même éteintes, elles ont vécu beaucoup plus longtemps que nous et n'étaient pas du tout moins bien adaptées comme on peut parfois le croire et comme on l'a longtemps cru. Maintenant, parlons de vos travaux, Alexandra Houssaye. Vous avez publié une étude dans la revue Bioinspiration et Biomimétique à propos des propriétés mécaniques des os de mammifères géants. C'est pour justement des applications pour la construction, et vous travaillez notamment sur des fémurs d'éléphants, de rhinocéros et d'hippopotames.
Oui, parce que j'ai eu un projet de recherche financé par l'Europe qui avait pour objectif de comprendre comment les animaux très lourds terrestres avaient pu s'adapter au niveau de leur squelette pour supporter leur poids massif. Parce que je trouvais ça assez incroyable de se dire qu'un rhinocéros qui fait plus de 2 tonnes, il est capable de galoper. Donc galoper, ça veut dire qu'à un moment, ses 4 pattes sont en l'air et qu'il va y avoir une réception sur 2 pattes. Et sans casser ses pattes. Et il y avait aussi ce truc de se dire comment est-ce qu'un dinosaure sauropode, genre un diplodocus, arrive à marcher sans casser ses pattes. D'ailleurs, pendant longtemps, on a eu des vieilles reconstructions des dinosaures sauropodes qui justement les dessinait dans des milieux aquatiques, puisqu'on se disait que c'était pas compatible avec une locomotion terrestre, mais on en est revenu, hein, on sait très bien que c'était terrestre. voilà, et donc moi je voulais comprendre ça. Et forcément, quand on est dans le registre actuel, on n'a pas beaucoup d'animaux très lourds terrestres actuels. On va avoir la lignée on va avoir les hippopotames, les rhinocéros et les éléphants. Donc ça fait pas beaucoup d'espèces. Par contre, quand on part dans le registre fossile, il y en a plein. Il y a pléthore de mammifères et de reptiles géants.
Il y a une quarantaine de groupes, hein, je crois, qui ont développé des tailles énormes.
Il y en a plein. Donc on a de quoi vraiment on a de quoi se faire plaisir. Donc, c'était ce qu'on a fait, à essayer de comprendre ces relations-là. Et puis, comme vraiment, j'essayais de comprendre les squelettes des os des membres de ces bêtes-là, je me suis dit, en fait, c'est comme un peu des colonnes qui doivent supporter, surtout qu'on dit que les dinosaures, les éléphants et les dinosaures sauropodes ont des membres en colonne parce que c'est vraiment très vertical, tout ça. Je me suis dit, on pourrait penser à la construction. Qu'est-ce qui se passe dans la construction? Et en général, dans la construction, on va faire des colonnes pleines. De forme cylindrique en général et pleine. Alors que, en fait, heureusement pour les organismes, c'est pas du tout le cas au niveau de leur squelette. On n'a pas un squelette qui est complètement compact, mais on a une structure osseuse qui est très bien faite. Alors, il faut savoir que notre squelette, il est économe. C'est-à-dire qu'on va avoir des dépôts de tissus osseux là où on en a besoin pour que ça nous permette de résister à toutes les contraintes qu'on va subir. Et on va pas en mettre trop, parce que si on a des os lourds, ça fait beaucoup plus de masse à bouger, donc c'est coûteux économiquement. Donc, notre squelette, il s'adapte à ça. D'ailleurs, il s'adapte au cours de notre vie, hein, puisque d'un coup, si je me mets à faire un nouveau sport, il va falloir que je fasse ça progressivement, surtout à mon âge, parce que il va y avoir une nécessité de plus de dépôts osseux pour gérer les forces musculaires plus importantes. Mais de la même façon, quand on a nos scientifiques qui vont dans l'espace, il va y avoir une résorption osseuse parce qu'on n'a plus la gravité. Donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin de pratiquer du sport quand ils sont là-haut, puisque sinon, ils ont des risques de fractures importantes quand ils reviennent. Et donc, je voulais voir ce qui était vraiment particulier au niveau de la structure des os des gros lourds, pour comprendre qu'est-ce qui permet vraiment de supporter un poids massif et où est-ce qu'on doit mettre beaucoup d'os. Et ensuite, on s'est inspiré. Donc, j'ai essayé de comprendre ça chez les formes actuelles. Et on a essayé de regarder, ok, et maintenant, au niveau des os, quel os est le plus intéressant? Puisqu'il y a ça aussi, à savoir de quelle bête je vais m'inspirer, mais aussi de quelle partie de la bête je vais m'inspirer. Donc là, il y avait une réflexion sur quel os je prends maintenant comme source d'inspiration. Donc on a testé plusieurs os pour regarder lequel pouvait être le mieux adapté pour s'en inspirer pour faire une colonne. Et puis après, on a fait une première colonne avec une inspiration assez préliminaire, mais qui montrait qu'en fait, on pouvait avoir une résistance plus importante pour moins de poids sur cette colonne. Donc, c'est un travail qui nous montre qu'il y a un nouveau champ des possibles qui s'ouvre vraiment pour proposer des colonnes moins massives et donc une économie de matériaux, donc arrêter de gâcher et avoir quelque chose qui dure en plus longtemps dans le temps.
C'est ça, en fait, un os, finalement. Un os, c'est fait de la même façon avec le même matériau qu'on soit un stégosaure ou une femme, mais c'est quand on atteint la structure interne que là, vous réussissez, Alexandra Houssaye, à sortir des lois biomécaniques générales qui sont utiles pour l'architecture.
Oui, complètement. Il y a vraiment certaines choses qui se retrouvent tout le temps. Et voilà, c'est les mêmes parallèles qu'on faisait tout à l'heure au niveau de la morphologie externe. On les a au niveau de la structure interne. Et on a pu tester ça. Donc on joue. Quand je dis on joue, c'est on travaille très sérieusement et de façon carrée. C'est juste qu'on prend beaucoup de plaisir à faire notre travail. On adore ça. Donc forcément, il y a un côté un petit peu... je pose des questions et je vais y répondre. Donc on fait beaucoup de tests. Et donc on fait des tests déjà sur ordinateur, puisqu'on peut avoir des modélisations en biomécanique. On essaye d'appliquer des contraintes sur nos os, dans nos logiciels, et on regarde s'ils vont bien le supporter. Donc ça marche plutôt bien. Mais après, on imprime aussi des choses en trois dimensions. Et là maintenant, en fait, il y a eu le développement pas mal des imprimantes qui peuvent imprimer directement des structures hétérogènes. Il n'y a plus besoin de venir faire des trous, des impressions compactes. Donc, au contraire, on a directement ces impressions-là et on peut faire des tests mécaniques dessus. Et c'est ce qu'on a fait là pour tester des colonnes bio-inspirées.
Guillaume Lecointre ?
C'est formidable et c'est très beau ce que vient de dire Alexandra, parce que c'est vraiment la mise en œuvre de deux logiques, de points de rencontre entre deux logiques. Enfin, si on peut dire ça. Le vivant, il a passé les épreuves déjà. C'est-à-dire que les dispositions qu'on constate chez le vivant, ce sont des dispositions qui ont été mises à l'épreuve. D'ailleurs, des épreuves qui ne sont pas toujours très sévères. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des compromis, il y a des cas incaya, il y a des trucs qui marchouillent. Je vais pas me lancer sur ce que c'est que la parturition chez l'espèce humaine. Ça marche pas très bien. Beaucoup de femmes encore meurent de leur accouchement. On va pas se lancer là-dedans. Ça va nous faire une émission entière. Mais il y a des choses qui marchent pas bien. Mais néanmoins, finalement, le vivant qui est là, les ancêtres de ceux qu'on voit arriver jusqu'à aujourd'hui ont survécu. Sinon, il n'y aurait pas eu de pérennité généalogique. Donc, on a des dispositions qui fonctionnent sans que personne ne les voulu. Parce que ceux chez qui ça ne fonctionnait pas bien, ils ne sont plus là pour qu'on les voit, ils sont déjà morts. On a une optimalité relative, je dis bien relative, sans concepteur dans le vivant. Et de cette optimalité, de ce truc qui marche sans que personne ne l'ait voulu, on va en faire quelque chose qui marche parce qu'on veut que ça marche. Et j'aime bien ce point de friction entre ces deux logiques. Nous, humains, en tant qu'êtres concepteurs, on anticipe une fonction à advenir lorsqu'on va construire une structure. C'est-à-dire que la structure, lorsqu'on la construit, on sait déjà quelle fonction elle va devoir remplir. Alors que dans le vivant, la fonction, c'est déjà le filtre de survie par lequel les structures se sont maintenues. Donc je ne sais pas si vous voyez le renversement de logique, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup, nous les humains, de mal à penser l'évolution, parce qu'on se dit si un truc marche, c'est que ça a été voulu pour. C'est étudié pour, comme dirait Fernand Reynaud. Et donc, ce point de friction, je le trouve passionnant. On ne fait pas de bio-inspiration, et surtout, on ne fait pas de paléo-bio-inspiration sans évolution. On y reviendra peut-être.
Et tout de suite, on quitte les gros animaux lourds, mais pour se tourner vers les crocodiles avec leur reportage du jour. Pour comprendre les fonctions de certaines caractéristiques morphologiques d'espèces animales du passé, il est donc souvent nécessaire d'analyser les espèces animales actuelles. C'est ce qu'illustre notre reportage du jour. On s'intéresse aux ornementations qui se sont développées sur le dos d'un lointain ancêtre du crocodile, il y a quelques 200 millions d'années. Et pour cela, nous sommes allés au Centre de Recherche en Paléontologie de Paris, à l'Université de Jussieu. Et c'est avec vous, Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha. Vous avez parlé d'une ornementation sur le dos, mais comme les crocodiles ont une peau différente de nous, on retrouve cette ornementation sur leur ostéoderme. L'ostéoderme, c'est une couche de kératine faite d'écailles osseuses qui recouvre le corps de certains animaux. Et chez les crocodiliens, il se trouve que cet ostéoderme est ornementé, c'est-à-dire composé de motifs qui sont formés par des petites cavités qu'on appelle des cupules. François Clarac est enseignant-chercheur au Centre de recherche en paléontologie de Paris, à Sorbonne Université. Il s'est demandé quelle était la fonction de ces cupules qu'on voit se développer chez les ancêtres des crocodiles à la frontière entre le Trias et le Jurassique. Pour le savoir, il a d'abord analysé ces structures sur des caïmans et des crocodiles qui sont bien vivants aujourd'hui. Les premières images que m'a montrées ce paléontologue, ce sont des bouts de cupules de crocodiles observées au microscope.
Donc en fait, on a une coloration qui va mettre en valeur différents tissus suivant le type de colorant qu'on utilise. Et là, ce que vous voyez, donc en violet recensé plutôt, c'est l'os qui a été coloré. Juste au-dessus, vous avez le derme qui est coloré en bleu, l'épiderme en violet et la couche de kératine qui apparaît en jaune. Et donc, ce qu'on a entouré là, ici, donc ça, vous avez une cupule en coupe.
Mmh. Et donc, les cupules, c'est ces petits, ces petites trouées dans l'ostéoderme.
Exactement. Et donc, dans ces petites cupules, vous voyez qu'il y a un bouquet vasculaire, c'est-à-dire, vous voyez, plein de petits vaisseaux. Et en fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir la relation entre le nombre de vaisseaux, la taille des vaisseaux et la taille des cupules. Pour ensuite, quand on va travailler sur du matériel fossile, pouvoir projeter, en fait, ce vaisseau sanguin qu'on ne retrouvera pas, qui ne sera pas préservé sur le matériel.
En fonction de la taille de la cupule, se demander combien de vaisseaux sanguins.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a établi. C'est ce qu'on a établi ici, vous voyez, avec des droites de régression. Voilà, par exemple, vous avez la surface des cupules en section, en millimètres carrés, et vous avez le nombre de vaisseaux à l'intérieur des cupules. Et on voit qu'il y a une relation linéaire très forte, quoi.
Et en observant qu'il y avait ces vaisseaux sanguins dans les cupules, est-ce que vous avez tout de suite eu des hypothèses sur à quoi servaient ces cupules, quel était leur rôle évolutif notamment.
Je disais, les hypothèses, elles avaient été déjà posées d'avance. Donc nous, on a pu faire en fait un tri entre ces hypothèses grâce à ces nouveaux résultats. Donc, étant donné que les ostéodermes sont dans la peau, donc très proches, si vous voulez, de l'interface entre le corps de l'animal et le milieu extérieur, et qu'on sait également que les crocodiliens sont des animaux qui sont devenus ectothermes au cours de l'évolution, c'est-à-dire des animaux dits à sang froid, qui ne produisent pas leur chaleur et qui ont besoin d'une source externe de chaleur, et bien tout simplement, on a supposé que ces vaisseaux sanguins étaient impliqués dans les échanges de chaleur avec l'extérieur. Tout simplement, en fait, par la circulation du fluide dans la peau.
Et ensuite, il a quand même fallu le tester.
Ah voilà, c'est ça. Donc, comme vous dites, il faut tester, c'est l'aspect fonctionnel. C'est-à-dire que tout ça était encore un peu qu'une hypothèse. Parce que, ok, on a visualisé des vaisseaux sanguins, mais on n'a pas vu directement
l'échange de chaleur.
Donc ça, j'ai pu répondre en fait à cette problématique, notamment grâce à une mission que j'ai faite en Guyane, aux eaux de Guyane, où j'ai pu avoir accès à diverses espèces de caïmans, donc de différentes tailles, et où j'ai pu en fait filmer ces caïmans avec des caméras thermiques, donc des caméras infrarouges, qui m'ont permis d'observer de façon très visuelle que ces parties du corps qui contiennent des ostéodermes très ornementés vont capter la chaleur, l'emmagasiner au cours de la journée quand l'animal va s'exposer, et puis ensuite diffuser la chaleur dans le corps de l'animal au cours de la nuit au travers de la circulation sanguine.
Pour l'instant, on a parlé d'études sur des animaux très existants, très présents.
Oui.
Mais d'avoir compris la fonction de ces cupules, ça vous a aidé ensuite dans l'analyse de certains fossiles, j'imagine.
Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé en 3D des crânes et des ostéodermes d'espèces de crocodiliens, je veux même dire de crocodilomorphes du coup, qui nous projettent jusqu'au Jurassique inférieur, donc il y a 200 millions d'années, même un peu avant, quoi, au Trias supérieur. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cette ornementation coïncide avec un changement de forme des crocodiliens, des crocodilomorphes, au Jurassique inférieur, où il y a un certain nombre d'espèces qui ont transité vers un mode de vie aquatique. En fait, les formes du Trias étaient des formes terrestres, potentiellement endothermes, c'est-à-dire potentiellement sans chaud.
Les ancêtres du crocodile, du coup, viennent de la Terre, pas de... Pas
c'est ça, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Les ancêtres communs des dinosaures et des crocodiliens étaient donc terrestres.
L'apparition de cette ornementation, donc de ces cupules, de cette vascularisation de l'ostéoderme, elle apparaît au moment où donc, l'ancêtre du crocodile revient dans l'eau, pour le dire trivialement.
C'est ça. Et il y a deux choses qui reviendraient, du coup, à un mode de vie semi-aquatique de prédateurs embusqués. Donc, c'est-à-dire que c'est des animaux qui sont aquatiques, mais qui bougent très peu. Et qui vont rester dans l'eau une bonne partie du temps et chasser depuis l'eau vers la terre.
De manière opportuniste.
De manière opportuniste. Et puis, ils sont aussi définis par un taux métabolique qui est très bas. En fait, ils ont un battement cardiaque qui est très faible. En fait, c'est des animaux qui bougent très peu, quoi. En fait, ils vont être très sur l'économie d'énergie, si je puis dire. Le développement de l'ornementation, donc de la vascularisation des ostéodermes, coïnciderait avec un retour à la vie aquatique et un changement de régime thermique, c'est-à-dire passer de l'endothermie, c'est-à-dire du sang chaud, vers le dit sang froid, l'ectothermie. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette ornementation était parfois présente avant, mais rarement marquée. Si vous voulez, c'est une ornementation qui était assez légère. Et donc, en fait, il y aurait eu un phénomène de sélection naturelle. La sélection naturelle ne peut se faire que sur des caractères qui sont déjà présents. Donc, c'est pas une apparition totale. Si vous voulez, ce caractère existait déjà, mais il a été sélectionné positivement, de fait, parce qu'il s'est maintenu chez toutes les espèces, en tout cas chez toutes les formes semi-aquatiques, et il a été accentué.
Est-ce que vous avez des idées quelconques de manière dont on pourrait s'inspirer de certaines de ces évolutions comme ces cupules ?
Il y a une équipe de chercheurs en Chine qui a fabriqué un système de refroidissement des piles à lithium. C'est amusant, ils nous citent dans leur article, et en fait ils disent qu'ils s'inspirent des ostéodermes, des crocodiliens, pour trouver un système qui permet d'améliorer le refroidissement de batteries à lithium. Sauf que en fait, leur système inspiré ne ressemble pas du tout, finalement, et très très loin, en tout cas, du fonctionnement biologique des ostéodermes des crocodiliens. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que, à l'intérieur d'un tube, ils rajoutent une ornementation de différentes formes, des formes triangulaires, des formes ovales, enfin, il y a plein de petites formes différentes, et ils testent laquelle est la plus efficace, parce que vous avez un fluide qui va s'écouler dans ce tube. Et donc là, vous avez une ornementation qui est en contact avec un fluide, qui va permettre de faciliter un échange de chaleur. Sauf que, chez les crocodiliens, l'ornementation n'est pas en contact avec le fluide. Parce que le fluide, c'est le sang qui circule à travers les vaisseaux et qui n'est nullement en contact avec l'ornementation de l'os, directement. Donc en fait, ce qui est très amusant, c'est que c'est de façon complètement détournée.
C'est-à-dire qu'ils ont eu l'idée.
Ils ont eu l'idée, mais
grâce à ça,
visiblement. Mais ils sont partis sur quelque chose qui n'avait physiquement, en fait, rien à voir avec... Donc on peut parler quelque part d'inspiration, de mimétisme, vaguement, quoi.
Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio pour découvrir la science telle qu'elle se fabrique au quotidien, c'est notre collection La Science au Labo. C'est à podcaster sur l'application Radio France. Guillaume Lecointre, la paléo-bio-inspiration, finalement, ça nous permet aussi d'avoir une vision très panoptique du vivant.
Oui, disons qu'on la pratique bien si on sait, quelles peuvent être les autres causes de la présence d'un organe dans un être vivant que la seule fonction. Alors, je vais essayer de faire court. Imaginez que des Martiens ou des Jupitériens, je ne sais pas quoi, regardent les humains un jour, rétrospectivement, et se disent « Oh, c'est bizarre, ces humains, à quoi pouvait bien servir ce téton qu'on trouve sur la face du torse des mâles ?» Et peut-être qu'ils s'efforceraient de trouver une fonction. On peut parfois donner une fonction à un organe sans qu'il ait vraiment cette fonction. Et donc, en effet, il faut quand même se souvenir quelque part que les êtres vivants portent des organes inutiles. Et ce téton masculin, il vient de ce qu'on appelle une contrainte de construction. En gros, il commence à se développer, ce téton, pendant l'embryogenèse de l'humain. Son développement est arrêté à la naissance. Il ne reprendra la puberté que chez les filles, mais pas chez les garçons. Et les garçons, ils garderont ce téton comme une espèce de trace passée d'un atavisme embryonnaire. Ça, c'est ce qu'on appellerait, ça participe des contraintes de construction elles-mêmes qui sont par ailleurs utiles pour comprendre comment les travées osseuses se décrivent dans une tête de fémur. Quand on veut se bio-inspirer, on se sert aussi des contraintes de construction. Mais il faut se souvenir que les contraintes de construction sont aussi responsables de structures qui sont présentes sans qu'elles soient utiles. Et la deuxième, c'est, mais pourquoi ces humains fabriquent-ils une queue à 9 vertèbres à la sixième semaine du développement embryonnaire, si c'est pour en détruire 4 autres faire finalement un coccyx? À quoi ça sert cette queue que nous avons entre 6 semaines et 8 semaines de développement? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle l'héritage historique, qui lui-même n'a pas toujours non plus de fonction. Voilà, donc cette vision panoptique, c'est garder à l'esprit qu'il y a des choses qui sont là, pas pour des raisons, ou qui peuvent être transitoirement là, pas pour des raisons fonctionnelles, mais pour d'autres raisons.
Voilà, vous évoquez des extraterrestres, moi ça me fait penser aussi à des robots. On a déjà construit pas mal de robots à partir de fossiles, c'est ce qu'on appelle donc la paléobionique. C'est une branche de la paléontologie qui reconstitue des espèces éteintes sous forme de robots pour mieux comprendre justement les contraintes biomécaniques. Mais Alexandra Houssaye, cette paléo-bio-inspiration, on n'en a pas encore parlé. Ça peut s'appliquer à un très grand nombre de disciplines et de champs dans l'industrie. Quels sont-ils?
Oui, on peut avoir des applications concrètes. Nous, on espère quand même, avec nos travaux sur l'os, avoir des applications. Bon, j'ai cité tout à l'heure le bâtiment, mais aussi bien dans le domaine industriel pour d'autres constructions, mais aussi dans le domaine médical, puisque ça pourrait permettre de faire des meilleures prothèses. Mais après, bien sûr, dans l'art, c'est très développé. Et là, dans la bionique, par exemple, il y avait la construction des dinosaures, par exemple, pour Jurassic Park, pour la saga, ça a été aussi utile, puisque finalement, d'imprimer des maquettes en 3D, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre scientifiquement. On n'a pas que ça à faire, entre guillemets, on n'a pas l'argent pour. C'est déjà difficile de financer la recherche fondamentale. Mais d'avoir ça qui est fait pour l'industrie du cinéma, ça nous permet des fois de tester des choses. Et par exemple, moi, j'avais un collègue en Angleterre qui avait travaillé sur la locomotion des T-Rex. Et il y a toujours cette question de savoir à quelle vitesse ils peuvent se déplacer, etc. Quand on a vraiment un modèle 3D en face de nous avec des tailles beaucoup plus massives, on voit la faisabilité ou pas. Est-ce que ça se tient ou pas? Et en fait, là, les mouvements de la queue, par exemple, étaient beaucoup trop rapides. Ça montrait que c'était pas compatible. Donc, ça allait beaucoup plus dans le sens d'une locomotion moins rapide, enfin plus lente. Donc, des fois, c'est très intéressant d'avoir ça. En fait, la bio-inspiration, c'est la même chose d'ailleurs dans ce que disait François. En fait, on fait un jeu perpétuel entre... Comme on se permet de faire de la bio-inspiration, ça va nous permettre de tester une relation forme-fonction isolée, ce qu'on peut pas faire en temps normal, puisqu'on a tendance à considérer la biologie dans toute sa complexité. Et de le tester, ça nous permet justement d'avoir un retour après, de se dire « Ah ben non, c'est pas comme ça que ça marche ». Donc on réfléchit différemment et on reteste et on se dit « Ah ben non, c'est pas comme ça que ça marche ». Et en fait, ce ping-pong qu'on fait grâce à la bio-inspiration, à nos travaux là-dessus, ça va nous permettre de renforcer nos connaissances en recherche fondamentale. Donc en fait, quand on fait ça, ça sert pour la société, mais ça nous sert aussi, nous, à enrichir notre recherche.
Oui, on voit que les applications technologiques de la paléo-bio-inspiration sont donc susceptibles d'éclairer en retour la paléontologie en 30 secondes, parce qu'on est vraiment à la toute fin. Alexandra Houssaye, on a des demandes du milieu industriel, j'imagine, enfin, qu'on vous fait des demandes d'entrepreneuriat dans le milieu.
Mais en fait, faut que les demandes elles viennent de façon précise, puisque nous, le but, c'était de montrer quel est le potentiel. Maintenant, par contre, il va falloir une véritable demande pour qu'on puisse aller chercher, justement, comme le bibliothécaire, tous les livres qui vont servir à répondre à la question. Et pour ça, il faut une demande précise et on est à l'écoute.
Donc, on voit bien que c'est un nouveau champ d'études qui donne aussi une autre visibilité à la discipline et qui permet de la comprendre et de l'appréhender différemment. Merci, un grand merci à vous deux. Là, tout de suite, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbault. On quitte la paléontologie pour l'informatique quantique. Google vient de dévoiler son processeur quantique. C'est la chronique avec Science.
Avec sa puce quantique, Google a-t-il de nouveau atteint la suprématie quantique? Ce n'est pas la première fois et ça ne va peut-être pas durer. D'abord, il faut bien comprendre qu'un ordinateur quantique n'a rien à voir avec l'ordinateur qu'on a chez soi. Ce sont des machines gigantesques, souvent réparties sur plusieurs plateformes, construites dans des conditions extrêmes, proches du zéro absolu. Ensuite, il faut les distinguer des supercalculateurs classiques. Eux aussi sont énormes, très puissants, mais ils fonctionnent avec les règles de l'informatique classique, faites de 1 et de 0. Dans un ordinateur quantique, le processeur est composé de qubits, comme des 1 et 0, sauf qu'ils peuvent être dans plusieurs états à la fois 1 et à la fois 0. Cela permet de représenter toutes les réponses possibles à un problème en même temps, et l'algorithme sert ensuite à faire émerger la bonne solution. C'est assez abstrait, mais Mathias Urdam-Pileta, chargé de recherche CNRS à l'Institut Néel et enseignant à l'Université Grenoble-Alpes, vous propose une image beaucoup plus parlante avec une coccinelle et des fourmis.
Par exemple, on va prendre une petite coccinelle qu'on va mettre dans le labyrinthe qui va devoir trouver sa sortie. L'ordinateur classique, lui, ça va être la coccinelle, va essayer de tester tous les chemins possibles jusqu'à trouver la bonne sortie dans le labyrinthe. L'analogue quantique à ça, ça serait de prendre une colonie de fourmis qu'on va positionner dans le labyrinthe. Et en fait, les fourmis, en parallèle, vont aller explorer tous les chemins en même temps. Et lorsqu'il y en a une qui va trouver le bon chemin, elle va venir, par interaction avec des phéromones, interférer avec ses collègues qui vont de plus en plus se projeter sur le bon chemin. Et donc à la fin, si on fait une mesure statistique, c'est-à-dire si on prend une fourmi au hasard, on a de très grandes chances de la trouver sur le bon chemin. Donc là, cette analogie montre que pour un ordinateur classique, pour résoudre par exemple le problème du labyrinthe, on va avoir une demande de calcul qui va être gigantesque, alors qu'avec le calcul en parallèle, on va pouvoir diminuer la classe de complexité de ce problème.
Au cœur de ces ordinateurs quantiques, il y a trois ingrédients essentiels. L'avantage, la vérifiabilité et l'utilité. L'avantage quantique, on parle aussi de suprématie quantique, c'est le fait qu'un ordinateur quantique soit plus rapide qu'un supercalculateur classique. La vérifiabilité, c'est le fait de vérifier que la solution apportée par l'ordinateur quantique est la bonne. Ça paraît un petit peu paradoxal, comment le prouver si on n'a qu'un ordinateur quantique pour le faire? En réalité, vérifier une solution est plus simple que de la trouver. Le troisième point essentiel, c'est l'utilité. Trouver une solution à un problème qui présente un avantage quantique mais sans utilité réelle n'a aucun intérêt. La nouveauté de Google, publiée dans un premier article paru dans Nature, c'est un algorithme qui serait à la fois vérifiable et avec avantage quantique. Cet algorithme repose sur l'écho quantique. On envoie une perturbation dans le système, on modifie un seul qubit, puis on fait comme si on rembobinait le temps. Ce retour en arrière, cet écho, révèle des informations cachées sur l'état du système. Résultat, l'algorithme Quantum Echoes de Google a produit des résultats 13 000 fois plus rapidement qu'un supercalculateur classique.
La publication de Google montre un avantage quantique, mais sur un problème qui n'est pas démontré utile dans la publication. Donc, ils ont fait une deuxième publication le même jour, qu'ils ont postée sur le dépôt Archive, où ils essayent d'appliquer leur méthode à un problème réel, résonance magnétique qui est la base de l'IRM, et ça permet justement de pouvoir détecter, lorsqu'on va regarder les protons par exemple des molécules d'eau, comment leur environnement évolue, et on va pouvoir sortir des informations par résonance magnétique et donc par processus d'écho. Mais en fait, dans ce cadre-là, ils ne montrent pas d'avantage quantique pour des limitations techniques. Donc à l'heure actuelle, effectivement, il y a des problèmes sur lesquels on peut dire qu'il y a un avantage quantique, mais qui n'ont pas forcément d'utilité. Et le deuxième point, c'est que cet avantage quantique n'est pas définitif. C'est quelque chose qui peut être assez éphémère. C'est ce qui avait été fait la fois d'avant quand ils avaient proclamé la suprématie quantique, mais qui a été en fait assez vite démonté. Et les physiciens étant même un peu taquins, ils sont amusés à programmer l'algorithme classique qui démontait l'algorithme quantique de Google sur un processeur Commodore qui est un ordinateur des années 80. Et ils ont réussi à démontrer qu'il n'y avait plus d'avantage quantique. Donc c'est quelque chose d'assez éphémère. Tant qu'on n'a pas trouvé un algorithme classique qui fait mieux, il y a avantage quantique, mais voilà, ça peut être assez vite cassé.
L'annonce est forte et pour l'instant vraie, mais probablement éphémère. On s'attend dans les semaines à venir à ce qu'une équipe de scientifiques annonce qu'ils ont réussi à faire la même chose avec un supercalculateur, voire un très vieil ordinateur s'ils sont un peu taquins. Pour l'utilité, c'est l'objet de la seconde publication, encore non relue par les experts du domaine. L'algorithme arrive à prédire la structure d'une molécule déjà connue de façon très élégante, avec comme objectif en ligne de mire la découverte de nouveaux médicaments, mais il n'y a pas d'avantage quantique parce qu'on sait déjà le faire autrement. La suite pour Google sera d'aller plus loin en augmentant son nombre de qubits et donc sa puissance de calcul, mais on touche du doigt toutes les limites actuelles de l'ordinateur quantique. Trouver une classe de problèmes pour lequel il est supérieur, vérifiable et utile, c'est le Graal et pour l'instant, on ne l'a pas atteint.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui, Alex Dang. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.